Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la quatrième saison du podcast Le Pouvoir des Plantes, le podcast Arcopharma qui décortique les bienfaits des plantes. Je suis Aurélie Canzoneri, naturopathe certifiée, et je vous accompagne dans mon exploration des plantes et de leurs bienfaits. Jusqu'ici, vous aviez l'habitude de m'entendre, seule, derrière le micro pour parler des bienfaits des plantes. Mais pour cette quatrième saison, nous avons décidé de réaliser deux épisodes hors série, sous forme de podcast vidéo. À cette occasion, j'ai le plaisir d'interviewer Charline, une professionnelle de santé qui est sage-femme. Un regard précieux pour explorer ensemble le lien entre santé et phytothérapie. Bonjour Charline.
Bonjour Aurélie.
Bienvenue.
Merci.
Aujourd'hui avec Charline, nous allons parler de la santé des femmes, des façons de les accompagner naturellement au quotidien et du rôle que certaines plantes peuvent jouer dans cette démarche. Charline est très bien placée pour en parler puisqu'elle est sage-femme depuis 10 ans, d'abord en clinique puis en libéral. Elle est également créatrice de contenu sur le thème de la santé féminine qu'elle partage sur son compte Instagram charline.sagefemme, chroniqueuse télé pour l'émission Orgasmique dans laquelle elle parle de sexualité de manière simple, naturelle, décomplexée et décomplexante. Et enfin, elle a écrit un livre, Le grand guide de ma grossesse sereine, paru le 10 janvier 2024. Pour commencer, Charline, pourquoi as-tu souhaité devenir sage-femme? Et comment s'est fait la transition vers les réseaux sociaux et comment t'es venue l'idée d'écrire un livre?
Bah déjà, merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Écoute, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu devenir sage-femme? C'est que, ça commence par mon histoire personnelle, je suis moi-même une femme et donc j'ai été une jeune femme et j'ai découvert par moi-même le tabou autour de l'intimité féminine, autour des choses aussi simples telles que les règles, les douleurs de règles, etc. Et en fait, déjà, ado, j'ai comme été révoltée par l'absence d'informations sur ce sujet. Et donc, j'ai été passionnée pour aller chercher moi-même ces informations. Et donc, j'ai toujours voulu travailler avec et pour les femmes. Et c'est exactement pour cette même raison d'être révoltée du tabou qui est autour des femmes que, assez naturellement, au cours de ma carrière, je me suis dirigée vers les réseaux sociaux. Donc, comme tu l'as dit, j'ai d'abord travaillé en maternité. Et quand c'était le cas, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui arrivaient aux urgences pour des raisons qui n'étaient pas forcément urgentes, en disant « bah oui, mais j'ai lu sur Internet que… » Et du coup, ça m'a inquiétée. Et donc, je me suis dit « bah au lieu de dire aux femmes bah, « n'allez pas sur Internet, on ne sait pas ce qu'on y trouve, bon, soyons honnêtes, on va tous sur Internet et c'est normal », je me suis dit « bah moi-même, je vais y aller pour essayer de donner de l'information vérifiée, experte, nuancée aussi ». Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est formidable parce que ça permet de délivrer plein d'informations, de démocratiser ces informations. Et bah, c'est aussi pour ça que je suis trop contente de, qu'on fasse ce podcast ensemble. C'est vraiment dans la même veine, c'est vraiment le but de se dire « Ok, on a plein de questions, on entend plein de choses. Comment faire la différence entre le vrai, le faux? Comment réussir à faire tout ça ?» Et je pense que c'est essentiel, donc on continue.
Dans cet épisode, Charline, nous allons explorer des thématiques récurrentes liées à la santé des femmes. Je rappelle juste qu'il est important de demander conseil à un professionnel de santé lorsque vous décidez d'utiliser des plantes et que les solutions naturelles, comme la phytothérapie, viennent en complément de la médecine classique et non en remplacement. Tout d'abord, j'aimerais qu'on aborde le sujet des règles. On parle des règles du cycle féminin. Vaste sujet, mais c'est quelque chose qui doit revenir de manière assez récurrente, je pense, en rendez-vous. Je voulais savoir, est-ce que tu accompagnes beaucoup de femmes qui ont des règles douloureuses et quelles sont les questions récurrentes et les solutions que tu leur apportes?
Alors oui, grand sujet, les règles.
Je sais.
Déjà, merci pour cette question parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui pense que les sages-femmes, c'est que autour de la grossesse. Mais ce n'est pas le cas. C'est aussi le suivi gynécologique, vraiment, bah, comme tu l'as dit, tous les sujets autour du cycle des femmes. Et donc, ça permet à toutes les personnes qui nous écoutent de savoir que si elles sont embêtées par des règles douloureuses, elles peuvent très bien en parler à leur gynéco, à leur médecin généraliste ou à leur sage-femme. Si c'est une petite gêne et qu'on arrive à vivre avec, c'est tout. Mais c'est aussi là où je trouve que c'est intéressant de donner des conseils naturels parce que ça permet de se dire, bah, tu vois, même les petites gênes, tu peux aussi faire quelque chose. Et si c'est des grandes gênes, eh bien, commence, et c'est de façon la demande de plus en plus fréquente des femmes, c'est « oui, mais est-ce que vous avez des solutions naturelles qui viennent, comme tu l'as dit, parfois en complément de solutions moins naturelles ?» Les conseils naturels, c'est la bouillotte pour celle que ça soulage, la bouillotte soit sur le ventre ou sur le dos. Il existe aussi parfois même des bouillottes qu'on peut mettre dans des ceintures pour les garder sur soi au boulot. Chez certaines personnes, le chaud ne fait rien et c'est plutôt le froid qui va faire du bien. Donc, on en parle moins du froid, mais pourquoi pas tester. Ensuite, il y a l'alimentation, notamment une alimentation riche en tout. Des protéines, mais également des fibres, des bons gras avec notamment des oméga-3. Faire attention à son alimentation, notamment quand on a des règles douloureuses. Souvent, on a envie de sauter sur des sucres parce que ça nous fait du bien. Ça, on sait en plus que ça nous apaise, ça nous réconforte. Et donc, on a envie de sauter là-dessus. Mais ça peut avoir un effet plutôt délétère. Diminuer tous les excitants, trop de café, les consommations d'alcool, de tabac. Encore une fois, c'est des conseils qu'on donne tout le temps. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous arrivez à les appliquer, ne serait-ce que de 1%. Juste essayer d'améliorer ce qu'on fait habituellement.
Eh bien, peut-être qu'un conseil marchera pour l'une, l'autre conseil marchera pour l'autre. Il faut tester parce que à la fin, voilà, l'individualisation compte aller et c'est important de voir ce qui marche sur soi.
Oui, et d'un mois à l'autre aussi. Parfois, on se rend compte que, et j'allais en parler, le stress joue beaucoup sur la douleur perçue, mais la douleur physique aussi. Si je me sens pas bien en ce moment, si je me sens irritable, eh ben forcément, je vais encore plus. Enfin, c'est possible que mon corps parle encore plus. Se faire du bien mentalement, que ce soit avec le sommeil, avec de la méditation, avec de la respiration.
C'est comme le sport. Alors, moi, pendant très longtemps, personnellement, je parle à titre personnel, j'ai eu l'impression qu'il ne fallait pas faire du sport pendant qu'on avait un épisode de règles douloureuses. Et en fait, j'ai tenté le sport, parce qu'un jour, j'avais lu que ça pouvait faire du bien. Et maintenant, quand j'ai mal, bah, le fait de faire beaucoup de cardio, par exemple, de faire du vélo, ça m'aide. Donc, voilà, il y a ce qu'on dit et ce qu'on vit personnellement.
Exactement. Et figure-toi que les études vont dans ce sens. Vraiment, il y a même des études qui ont montré que 6 semaines de yoga régulier, ça peut diminuer significativement les règles douloureuses. Alors, je ne dis pas encore une fois que ça va fonctionner pour tout le monde, mais ça vaut vraiment le coup, en tout cas, de se dire, tiens, le fait de bouger, est-ce que ça m'aide? Quel mouvement m'aide? Et en plus, le sport, c'est tellement de bienfaits que si, en plus, ça aide pour cet inconfort menstruel, tant mieux. Et enfin, si jamais il y a des personnes qui me disent « Oui, mais bon, Charline, nous, si on t'écoute aujourd'hui, c'est pour savoir est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent aider pour le coup, les capsules d'huile d'onagre. On entend de plus en plus parler, ça peut aider. C'est toujours pareil, c'est pas du 100%. Je peux rien promettre de toute façon, mais ça vaut le coup d'essayer. L'huile d'onagre, pour ceux qui connaissent pas, l'onagre, c'est un phytoœstrogène. L'œstrogène, pour ceux qui tiltent, c'est une hormone qu'on a dans notre corps. Et justement, eh bien, ça vient soutenir ce que le corps fait lui-même et donc ça peut diminuer cet utérus hyper contractile. À noter quand même, petite alerte pour l'onagre, et d'où l'intérêt, comme tu l'as dit, de toute façon, d'en parler à son professionnel de santé, c'est que comme c'est un phytoœstrogène, ça peut agir sur les hormones. Et donc, c'est contre-indiqué si on a, par exemple, eu un cancer du sein ou une pathologie liée aux hormones. Donc, on en parle à son professionnel de santé, mais pour le coup, ça peut vraiment être un soutien.
Tu viens de parler de onagre, très important de le mentionner. Il y a également 2 autres plantes qui sont importantes dans le cadre du cycle féminin. Il y a l'achillée millefeuille, qui va aider à réguler les cycles menstruels, à soulager les douleurs liées aux règles et qui va soutenir la circulation sanguine. Et on a également la grande camomille, qui va prévenir et soulager les maux de tête liés au cycle. Qui va apaiser aussi les tensions nerveuses, favoriser un meilleur équilibre émotionnel. Et on sait qu'on en a besoin pendant cette période du mois. Voilà, je voulais juste signaler que ces 2 plantes-là, c'est que l'onagre, on peut les retrouver en gélule chez Arcopharma. Parlons d'un autre sujet également qui me tient à cœur. Je voulais vraiment qu'on l'aborde ensemble. La fertilité et la libido. On sait qu'en moyenne, une femme tombe enceinte naturellement en 1 an. Et c'est vrai que pendant cette période, on a tendance à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne marche pas chez moi? Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc voilà, j'aimerais savoir d'abord si ce sont des couples qui viennent te voir ou si c'est plutôt la femme qui est plus inquiète à ce sujet. Voilà, encore une fois, comme pour le cycle, quels sont tes remèdes naturels et tes conseils pour pallier à tout ça?
Alors, effectivement, j'ai beaucoup de monde qui vient me voir pour un désir d'enfant. D'ailleurs, c'est même conseillé d'aller voir un professionnel de santé en cas de désir d'enfant, parce que ça permet de faire un peu le point sur la santé, voir s'il y a des conseils médicaux à donner en cas de désir de grossesse.
Mais alors, toi, tu dis dès le départ, au moment où on commence à vouloir un enfant, ou alors si au bout de quelques mois, ça ne marche pas?
Dès le départ, notamment parce qu'on va conseiller de l'acide folique à prendre dès le désir de grossesse, par exemple. Donc, dès le départ, et puis ça permet de poser ces questions. Et je trouve que ça peut même faire gagner du temps parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il y a un peu de tout. Il y a les patientes qui viennent me voir parce qu'elles avaient, par exemple, un stérilet, elles souhaitent l'enlever. Donc, on en parle à ce moment-là du désir d'enfant. Et c'est vrai que je les vois seules. Mais j'ai quand même pas mal de couples qui viennent me voir. Mais c'est vrai, quand ils viennent en couple, c'est plutôt à distance. C'est plutôt, on essaye depuis des mois et là, on commence à s'inquiéter. Et ça nous fait du bien d'en parler à quelqu'un. Et vraiment, c'est une super bonne idée d'en parler. Parce que parfois, on a juste besoin d'être rassuré dans le fait qu'on fait tout ce qu'il faut. Et c'est tout, faisons confiance. Donc, les conseils que je peux donner, c'est premièrement de comprendre son cycle menstruel. On en parle de plus en plus, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ne savent pas tout à fait, en fait, quand se trouve ce qu'on appelle la fenêtre fertile, c'est-à-dire le moment du cycle où on a le plus de chances de démarrer une grossesse sans test d'ovulation. Donc, concrètement, schématiquement, un cycle menstruel dure en moyenne 28 jours. En réalité, il dure, selon les femmes, entre 25 et 32 jours, de manière tout à fait normale. Et on ovule en moyenne entre 11 et 16 jours avant les règles. Et donc, le tout, c'est de se dire, OK, quand est-ce que j'ovule? Parce qu'une fois que l'ovule est là, il reste en vie à peu près 24-48 heures. Mais les spermatozoïdes restent, eux, en vie dans les voies naturelles pendant 5 jours. Et donc, on a une fenêtre de fertilité de 5 à 7 jours. Ce qui est quand même pas rien. Pour savoir quand on ovule, donc on a ces règles et généralement après les règles, on n'a pas beaucoup de pertes vaginales, mais ces pertes vont augmenter de jour en jour jusqu'à arriver à un moment donné où beaucoup de femmes se disent bah, « j'ai beaucoup de pertes, j'ai même l'impression que c'est huileux quand je m'essuie après être allée aux toilettes ». C'est ce qu'on va appeler un peu le pic d'humidité. Et à un moment donné, eh ben, pouf, ça va chuter et il ne va plus du tout avoir cette humidité. Eh ben, quand on a cette chute, c'est qu'on vient d'ovuler. En fait, cette humidité, c'est notre glaire cervicale, c'est-à-dire la glaire qui se trouve au niveau du col de l'utérus, qui se modifie en attendant l'ovulation et qui permet aux spermatozoïdes de passer le tunnel de manière plus efficace. Donc, c'est vraiment hyper, hyper bien fait. Donc, le premier conseil que je donne, c'est observer. Observer, 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 observer. Je sais que c'est tabou pour certains, mais je vais dire les mots parce que je suis sage-femme. Observez votre vulve, observez votre culotte, vous aurez les informations. Et il n'y a pas besoin d'avoir des rapports tous les deux jours pendant 30 jours. Déjà, tous les deux jours pendant ces 5-7 jours, c'est super. Donc, les 5 jours qui précèdent, on va dire, quand on sent qu'on est de plus en plus humide, à 2 jours qui suivent la chute de « tiens, je suis beaucoup moins humide ». Donc déjà, juste ça, c'est génial.
Mais alors, est-ce que tu recommandes aux personnes, dès le départ, de faire attention à leur cycle et à l'ovulation, ou alors plutôt de se laisser aller? Parce que j'ai déjà aussi rencontré des femmes qui faisaient trop attention à leur cycle et du coup qui, pendant les 3 jours, disaient à leurs copains « go, c'est maintenant ». Et donc, il y avait moins de spontanéité, moins de naturel. Et
ben oui, c'est une grande question. Et puis, il y a aussi cette peur que le stress bloque le démarrage d'une grossesse. On peut se poser la question, effectivement, que le cortisol, donc l'hormone qu'on sécrète quand on est stressé, ait un impact négatif sur la fertilité. C'est juste, mais c'est une balance qu'on ne peut pas tout à fait mesurer. Ce qui est sûr, c'est que le désir de grossesse vient nous challenger exactement là où la grossesse viendra nous challenger, exactement là où la parentalité viendra nous challenger. Donc, on fait bien comme on peut, mais ça ne sert à rien d'avoir la double peine de se stresser parce qu'on est stressé. Donc, j'ai tendance à dire, on prend les conseils selon ce qu'on est capable de faire à un moment donné. Et si on sent que ça nous surajoute de la pression, alors chaque chose en son temps. Peut-être que la priorité, c'est de se dire, on y va tranquille, mais on sait que ça existe. Et quand on se sentira prêt, on observera son cycle. Plutôt que de se dire, il faut, parce que Charline, elle a dit, et c'est comme ça que ça fonctionnera. Pas du tout. Il y a plein de personnes qui calculent rien et qui ont une grossesse en clignant des yeux. Donc, c'est de toute façon le but de tous les conseils, je pense, qu'on donne aujourd'hui et en général, c'est on sait qu'il existe une boîte à outils dans laquelle je peux piocher le moment venu quand j'en ai besoin. Et quand on a un désir d'enfant, comme j'ai dit, Numéro 1, observez son cycle quand on s'en sent prêt et quand on en a envie. De toute façon, tous les conseils que je donne, vous piochez ce qui vous parle. Numéro 2, que ce soit l'homme ou la femme, faire attention à son alimentation. Je vais le donner à chaque fois, hein, ce conseil, mais en même temps...
Oui, mais je suis bien passée pour le savoir. Voilà. Très, très important, je suis d'accord. Et en effet, bien fait, tu fais bien de le rappeler, chez l'homme et chez la femme.
Exactement.
En effet, il y a beaucoup trop de pression, sans vouloir faire la féministe, mais il y a beaucoup trop de pression sur la femme doit bien manger, etc. Mais en fait, non, pour faire un enfant, on est deux et c'est les deux qui doivent être... qui doivent avoir une bonne alimentation.
Exactement. Et en plus, comme je l'ai dit, donc la femme, elle ovule une fois par mois, mais l'homme, les spermatozoïdes qu'il donne aujourd'hui ont été conçus il y a 3 mois. Et donc, c'est important qu'il fasse également attention à son hygiène de vie, 3 mois en amont presque du désir d'enfant. Donc, hygiène de vie, j'entends par là, alimentation. On sait notamment que, donc bien évidemment, les fibres, les protéines, les bons gras aussi, j'entends par là les oméga 3, c'est intéressant. Diminuer, voire arrêter tabac, alcool.
J'allais le dire.
Pour les messieurs, éviter les sources chaudes au niveau de l'entrejambe, par exemple, travailler avec l'ordinateur sur le bassin. Si c'est des sportifs vraiment très, très, très aguerris, on sait par exemple que faire des heures et des heures et des heures de cyclisme par semaine, et ben parfois, ça va réchauffer l'entrejambe et donc ralentir la production de spermatozoïdes. Encore une fois, pas de pression, on applique ce qu'on peut, mais diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est important pour soutenir la fertilité. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire penser à aérer son logement au moins 10 minutes par jour, choisir plutôt des produits... d'entretien, pardon, plutôt naturel, éviter les bougies parfumées, changer ses poêles pour la cuisine si elles sont abîmées ou passer plutôt en inox ou en fonte. Ce genre de geste, c'est aussi important pour soutenir la fertilité.
Éviter le plastique aussi.
Exactement, surtout quand on le fait chauffer dans son micro-ondes. C'est vraiment le geste simple, on arrête.
Je voulais également parler d'une plante qui permet de stimuler la libido aussi bien chez la femme que chez les hommes. Ça s'appelle la maca, tu as dû en entendre parler déjà. Le tribulus aussi, mais qui est un peu moins connu. Ça va permettre vraiment de stimuler la vigueur et les performances, que ce soit physiques et intellectuelles, chez les femmes et chez les hommes, je répète. Elle va favoriser la fertilité et elle va aussi soutenir l'équilibre mental. Quand on sait, voilà, tu en parlais tout à l'heure, que le stress joue un rôle important dans la fertilité. La maca, avec le fait qu'elle soutienne le stress, qu'elle soutienne un bon équilibre mental et émotionnel, joue un grand rôle aussi dans la fertilité. Et sachez également qu'on peut la trouver en gélule chez Arcopharma. Autre sujet important dans la vie d'une femme, la périménopause et la ménopause. Quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent le plus lors de cette période, que ce soit péri et ménopause, et comment les accompagnes-tu, toi, de manière naturelle ?
Alors oui, on en parle de plus en plus de la ménopause, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ne savent pas trop ce qui leur arrive, notamment concernant la périménopause. Donc, pour rappel, la ménopause, c'est le moment de la vie qui est complètement normal, hein, ce n'est pas une maladie, où le cycle menstruel s'arrête. On peut dire qu'on est ménopausé lorsqu'il s'est écoulé 1 an sans règles. Et il y a la périménopause ou préménopause, on peut l'entendre aussi comme ça, qui est cette période de 2 à 5 ans qui précède la ménopause et dans laquelle on commence déjà à avoir des signes annonciateurs de cette fameuse ménopause. Quels sont ces signes ? Et bien pour les retenir, on a l'acronyme BIS, pour B pour bouffée de chaleur, I pour interruption des règles. Alors, pas en continu tant qu'on n'est pas ménopausé, mais on observe déjà une irrégularité du cycle, avec des cycles parfois plus longs, parfois plus courts. C'est super cool parce qu'à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est la ménopause ou est-ce que je suis en train de tomber enceinte ? S pour les sautes d'humeur. E pour l'évolution du poids, c'est effectivement une période où les femmes décrivent qu'elles prennent du poids, notamment à des zones où d'habitude elles ne prennent pas. On sait que les femmes prennent plutôt au niveau des hanches et des fesses. Et là, ça vient plutôt au devant du ventre, plutôt comme les hommes. Et le dernier S, parce que c'est bise au pluriel, on aime bien faire plusieurs, pour sécheresse de la peau et des muqueuses. Et donc, les conseils que je donne, c'est déjà pour chacun de ces signes. Je vais commencer à l'envers. Pour sécheresse de la peau et des muqueuses, la base, hydratation. Hydratation externe avec de la crème, avec des huiles, hydratation interne aussi, bien évidemment en buvant de l'eau grâce aux fruits, aux légumes. Et on en a parlé tout à l'heure de l'onagre, mais c'est aussi intéressant concernant les sécheresses d'en prendre régulièrement, encore une fois, si on n'a pas de contre-indication médicale.
Et les oméga-3 également, tu en parlais tout à l'heure dans l'alimentation, le fait de manger des petits poissons type sardines, hareng macro ou alors de prendre des gélules d'oméga-3 aide à hydrater la peau.
Complètement, les bons gras, c'est génial. Pour l'évolution du poids, et de toute façon, ça agira aussi sur les sautes d'humeur, sur l'irritabilité et pourquoi pas même sur les bouffées de chaleur. J'en parle à chaque fois, mais c'est l'activité physique. En fait, on se rend compte que le fait de bouger, ça régule nos hormones. Et encore plus, ce que j'ai envie de conseiller à cet âge-là, vers la cinquantaine, c'est la musculation. En fait, les femmes de 50 ans, on le sait, de par donc ces changements hormonaux dus à la ménopause, ont une perte de muscle. Et donc, ça vient aussi majorer les signes qu'on vient de dénoncer. Donc, de la musculation et manger suffisamment de protéines, eh bien, ça vient contrecarrer les signes gênants qui annonciateurs de la ménopause. Et en plus, on sait aussi qu'avec la ménopause vient un risque majoré d'ostéoporose, c'est-à-dire de perte de densité osseuse et donc plus de risque de fracture. Et notamment, avoir des muscles, ça protège les os. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que quand on est ménopausé, on recommande régulièrement, là ce n'était pas encore le cas, de prendre de la vitamine D. C'est essentiel.
Et ça aide aussi à la perte de poids. Le fait d'avoir d'être plus de muscles aide à la perte de poids.
Exactement, c'est ça, au maintien du poids complètement. Et on le sait, bah, c'est également un soutien émotionnel. Et donc pour tout ce qui est saute d'humeur, ça joue aussi. Ça permet de se dépenser, ça permet de mieux dormir parce qu'on sait aussi que les sautes d'humeur, que les bouffées de chaleur, ça vient impacter le sommeil. Donc, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « J'entendais tous ces conseils d'hygiène de vie, mais la réalité, c'est que tant que je n'étais pas ménopausée, j'arrivais à ne pas forcément les appliquer. » Et là, ça s'est imposé. Et c'est drôle parce que je trouve que c'est les meilleures ambassadrices de l'hygiène de vie. Elles me disent « C'est incroyable parce que je mets en place ces conseils d'hygiène de vie et mes signes de ménopause diminuent drastiquement. » Donc, la ménopause, ce n'est pas une maladie. La ménopause, ce n'est pas la fin. La ménopause, c'est juste une nouvelle période de la vie et c'est aussi une occasion pour peut-être mettre en place de nouvelles habitudes. Et un dernier point, parce que je sais que ça inquiète beaucoup de femmes déjà, donc mettre en place tous ces conseils naturels. Et je sais que c'est beaucoup décrié les traitements hormonaux de la ménopause, on entend aussi THM. Aujourd'hui, on a quand même des études qui sont plutôt rassurantes. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est important de le dire, que si on a des signes handicapants, si on a des signes qui nous gênent au quotidien, on en parle à son professionnel de santé, on ne reste pas toute seule sans rien faire.
Merci Charline pour tous ces conseils. Autre sujet que je souhaitais aborder avec toi absolument, les nausées pendant la grossesse. J'ai eu deux grossesses et pendant ces deux grossesses, le premier trimestre de chaque grossesse, j'ai eu des nausées. Et ça a été très difficile à vivre. Donc j'aimerais que... Et je sais que beaucoup de femmes, malheureusement, ont des nausées aussi, soit pendant le premier trimestre, soit tout au long de leur grossesse. Donc, j'aimerais vraiment que tu nous donnes tes conseils, ce qui marche le mieux, ton retour d'expérience à ce sujet.
Alors, effectivement, comme tu le dis, ça touche beaucoup de monde. Les chiffres montrent qu'aujourd'hui, ça touche 70 à 80% des femmes enceintes. Donc, beaucoup, effectivement. Aujourd'hui, pour le coup, oui, je recommande des solutions naturelles parce que c'est de toute façon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Vraiment, en premier lieu, on recommande de mettre en place une bonne hygiène de vie, encore une fois. Et si ça ne suffit pas, alors seulement on proposera un traitement médicamenteux. Donc là, pour le coup, tout le monde peut commencer par les conseils de base qui sont faire en sorte de ne jamais avoir le ventre ni trop vide, ni trop plein. Trop plein, on comprend ce que ça veut dire. Trop vide, ça veut dire, par exemple, avant de me lever le matin, j'ai un encas dans ma table de chevet et je mange un bout pour déjà mettre quelque chose dans mon estomac avant de me lever. Je bois une petite gorgée d'eau.
Et fractionner les repas tout au long de la journée également.
Et tout à fait. Et fractionner les repas, donc pas faire de grosses assiettes, mais plutôt se dire, OK, je mange un petit peu tout le temps au boulot. Pareil, j'ai des encas sur mon bureau et j'essaye de jamais avoir le ventre vide ou plein. Concernant les boissons, pareil, les fractionner, pas boire qu'au repas. Et ce qui peut bien fonctionner aussi au niveau des boissons, il y a pas mal de femmes qui trouvent que de l'eau citronnée, ça fait du bien.
Je confirme, ça a été mon cas. L'eau citronnée m'a sauvée avec, voilà, avec d'autres choses. Mais en effet, l'eau citronnée, je buvais ça toute la journée et ça m'a sauvée.
Ensuite, on peut également avoir le fait de s'automasser, un point d'acupression. Alors, je sais que ça étonne beaucoup de monde que je parle d'acupression. Figurez-vous que ça aussi, c'est dans les recommandations HAS, donc Haute Autorité de Santé. Il existe un point qui s'appelle le point 6 mètres cœur. On peut lire aussi 6 MC, qui se trouve au niveau du poignet.
Est-ce que c'est le même point que pour les nausées, pour les maux des transports ?
C'est exactement le même point.
Okay.
C'est exactement le même point. Donc, ce point 6 mètres cœur, il se trouve à 3 travers de doigts du poignet. Ça veut dire que je pose mes 3 doigts du milieu de la main sur mon poignet et je regarde au-dessus de ce point et j'arrive, on va dire, au premier tiers du poignet, à l'intérieur du bras. Et je peux masser cette zone en respirant profondément. D'ailleurs, pour beaucoup, c'est une zone qui va être sensible. Et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, on peut également trouver, comme tu l'as dit, ça fonctionne également pour le mal des transports. Et donc, les bracelets anti-vomitifs pour quand on a le mal de transport, ça peut fonctionner aussi. Et donc, on peut mettre ça pendant son premier trimestre sans aucun problème. Tu m'as demandé, est-ce qu'il y a des plantes qui fonctionnent ? On entend souvent le gingembre. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une réalité ? C'est une réalité. Effectivement, ça fait partie des choses qu'on conseille. Le gingembre, on se rend compte que ça a un effet calmant sur l'estomac. Donc, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas forcément si on le prend juste comme ça, une fois. J'ai une nausée, je le prends. Ce qu'on va conseiller, c'est plutôt de le prendre 4 fois par jour pendant au moins 4 jours à une dose de au moins 250 mg par jour.
Donc, la tisane de gingembre, une fois dans la journée, ça n'aidera pas.
Ça va hydrater, ça va permettre d'avoir le ventre pas vide. Mais si ça fonctionne, c'était peut-être le fait d'avoir le ventre vide. Après, c'est toujours pareil. Quand je donne des chiffres, c'est parce que c'est ce qui est recommandé pour avoir une efficacité. J'ai envie de te dire, si ça fonctionne juste une fois la tisane, tant mieux. Mais par contre, si ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que c'est le gingembre qui ne fonctionne pas. C'est peut-être qu'on ne l'a pas pris à une dose efficace.
D'accord. Oui, comme toutes les plantes d'ailleurs, parce qu'il ne suffit pas de juste prendre, par exemple, une tisane. Il faut prendre des compléments dosés, bien dosés, pour pouvoir voir un effet.
Exactement.
Et enfin, dernier sujet, le confort urinaire. C'est un sujet qui touche tout le monde. Donc, encore une fois, on a besoin de tes éclairages, on a besoin de tes conseils. Dis-nous tout ce que tu sais et ce qui fonctionne le mieux sur tes patients.
Alors oui, effectivement, ça touche beaucoup de femmes, des hommes aussi, mais moins. Petit point anatomique, pourquoi plus de femmes sont embêtées par de l'inconfort urinaire ? Parce que la distance entre la vessie et l'extérieur est plus courte chez les femmes. Notre urètre ne fait que quelques centimètres, là où chez les hommes, elle est longue de la longueur de leur organe. Donc, ils sont moins embêtés. Bref, ça peut concerner tout le monde, plus les femmes quand même. Là, pour le coup, on parle vraiment de prévention. En prévention, de base, mais vous allez dire, elle répète tout le temps la même chose, Charline, mais est-ce que vous le faites vraiment ? Vraiment, c'est incroyable. Tu n'imagines pas le nombre de patientes qui me disent « Ah, je ne comprends pas, après les rapports, après je sens que ça me gêne quand je vais faire pipi. » Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau ? Non, c'est vrai. Alors on va commencer par ça. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Au minimum, s'il fait chaud, c'est plus. Si on fait du sport et qu'on transpire, c'est plus. Voilà, c'est la base. On boit de l'eau. Vous trouvez ce qui fonctionne pour vous. Votre gourde graduée, des rappels sur votre téléphone. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui perd la tête que de mettre des réveils sur son téléphone pour penser à boire de l'eau. Clairement, on en a besoin. Donc, numéro 1, on boit de l'eau. Numéro 2, on s'essuie dans le bon sens après être allé aux toilettes. Jamais de l'arrière vers l'avant, mais l'inverse, toujours de l'avant vers l'arrière, autrement dit, du plus propre au plus sale. Et si on a des enfants, on fait la même chose pour eux. Ensuite, justement, en parlant de cette zone, prendre soin de son confort intestinal et notamment lutter contre la constipation. Parce qu'on se rend compte que quand on souffre de constipation, ça peut majorer l'inconfort urinaire parce que y a plus de transfert de germes. Et donc, par là, bah, l'eau toujours, l'activité physique toujours. C'est si simple, en fait, les conseils que je vous donne. Manger équilibré, notamment manger des fibres, c'est important. Et le petit geste de mettre ses pieds sur un marchepied lorsqu'on va aux toilettes. Ensuite, autre geste simple et pourtant que beaucoup de monde a la flemme de faire, c'est d'aller aux toilettes après avoir eu des rapports intimes. On y va, on se lève, on fait pipi parce qu'on sait qu'il y a des germes qui peuvent remonter dans le méa urinaire. Et donc, on va uriner pour vider, si toutefois des germes sont remontés, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et même si jamais on a juste utilisé son petit jouet personnel. Et enfin, en prévention, on en entend souvent parler, est-ce que la canneberge, ça fonctionne ? La réponse est oui, mais encore une fois, ça dépend de la dose. Déjà, pourquoi ça fonctionne ? C'est parce que dans les canneberges, il y a une molécule qui s'appelle les proanthocyanidines, plus simplement dit les PAC. Et ces molécules, elles agissent au niveau de la vessie et elles aident à ce que les germes ne s'accrochent pas et donc ne se multiplient pas. Et donc, c'est une super prévention quand on sent qu'on est souvent embêté par de l'inconfort urinaire. Mais dans ces cas-là, à quelle dose en prendre ? Ce qui est recommandé, c'est au moins 36 mg de PAC par jour. Et moi, ce que je conseille à mes patientes, c'est celles qui sont souvent embêtées, par exemple, après les rapports, et ben, c'est de, pendant un mois, voilà, faire une petite cure de PAC. Ça fonctionne bien, on est soulagé et on peut partir en vacances, esprit tranquille. Je parle de vacances parce qu'il y en a quand même plus de patientes qui viennent consulter pour ces sujets l'été, je trouve.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu fais bien de rappeler que c'est en prévention parce qu'on voit trop souvent de femmes qui veulent prendre de la canneberge une fois qu'elles ressentent un inconfort urinaire, alors que c'est vraiment une plante qu'on doit prendre en prévention, justement. Ça, c'est très important de le rappeler.
Et une fois qu'on a l'inconfort, pour le coup, il faut aller consulter.
Exactement. Alors, il y a la canneberge, comme tu as mentionné, mais il y a également la bruyère. La bruyère, elle est très connue aussi dans ce cadre-là, parce qu'elle va favoriser l'élimination d'eau et elle va vraiment contribuer au beau fonctionnement du système urinaire. Donc, voilà, l'une et l'autre, la canneberge et la bruyère fonctionnent très bien dans cette thématique. Merci beaucoup, Charline.
Merci à toi.
Oui. Voilà, pour ton aide, pour tes précieux conseils. Je pense que et tes conseils naturels et ta bonne humeur vont rester dans nos têtes et vont aider beaucoup de femmes, les femmes qui nous écoutent, les femmes qui nous regardent. Elles vont sentir qu'elles sont moins seules et elles auront des solutions naturelles pour tous les maux de leur quotidien. Et ça, c'est précieux. Donc, merci beaucoup.